Avoir un enfant, c'est beaucoup de bonheur. Mais c'est aussi beaucoup de questions auxquelles on ne trouve pas toujours les réponses.
Je m'appelle Aurore.
Je suis orthophoniste et psychomotricienne et j'ai créé Donnez-lui des ailes pour vous accompagner à vivre avec sérénité le développement de votre enfant.
Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour s'interroger sur la question « Pourquoi votre enfant fait-il des crises ?» Une question qui revient souvent parce que c'est pas toujours évident de comprendre qu'est-ce que c'est que ces comportements qui nous désarçonnent un petit peu. Un enfant qui crie, qui pleure, qui donne des coups de pied, qui mord, qui se roule par terre, qui lance des objets, enfin tout ce que on n'imaginait jamais qu'il aurait fait pour des choses qui nous paraissent tellement futiles et qu'on ne comprend pas pourquoi il se met dans des états pareils. C'est vrai que ça peut vraiment dérouter. Je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, pour répondre à cette question, je voudrais vous parler de Phinéas, qui est une personne qui est devenue célèbre dans le monde entier parce que en fait, il a été victime d'un accident en 1848. Alors ça date pas d'hier, mais c'était une personne qui travaillait sur des chantiers, sur un chantier de chemin de fer, et qui était très très appréciée de tout le monde. C'était quelqu'un qui était très organisé, qui était bien sous tout rapport, doux, etc. Et en fait, son travail, ça consistait à faire exploser les montagnes pour installer les rails du chemin de fer. En gros, il creusait un trou, il mettait des explosifs, un peu de sable, et puis il tassait tout ça avec une barre. Mais un jour, donc, il a eu ce fameux accident qui l'a rendu donc célèbre. En fait, la barre qu'il avait dans les mains lui a traversé une partie, enfin la joue et une partie du cerveau, la partie avant du cerveau. Il faut savoir que c'était quand même une barre d'1,10 m de long et de 3,2 cm de diamètre, donc c'était quand même un sacré trou. Et ce qu'il est arrivé, c'est qu'en fait, il est devenu aveugle de l'œil gauche, mais à part ça, il a vécu plus ou moins normalement encore pendant 12 ans. Et alors bon, pourquoi je vous raconte tout ça? En fait, il n'a pas complètement vécu normalement. Ce qui a changé, c'était en fait son comportement. C'était quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, qui était très doux, bien sous tout rapport, très organisé. Et tout d'un coup, c'est devenu plus du tout le même homme. Il est devenu super impulsif, grossier, vulgaire, agressif, il était capricieux, il était désorganisé. On a même dit qu'il était devenu complètement instable et associable. Bref, je sais pas, peut-être qu'il se faisait des crises, il se roulait par terre, il lançait des objets, il criait, il donnait des coups de pied. Je pense que vous devez voir où je veux en venir. Peut-être qu'il faisait des crises un petit peu comme votre enfant, comme tous les enfants de les jeunes enfants. Tout simplement parce que Phinéas, une partie de son cerveau avait été atteint. Cette partie, en fait, c'est la partie qu'on appelle le cortex préfrontal. Du coup, toutes les connexions entre les neurones de cette zone ont été coupées. Du coup, il a plus réussi à bien contrôler ses pensées, ses gestes. Il avait plus d'empathie, il était plus capable de raisonner, de comprendre plein de choses. Après, l'histoire n'est pas vraiment... on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Certains disent qu'il a pu récupérer une partie de ses capacités. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que finalement, chez votre enfant, c'est la même chose. Enfin, ce n'est pas complètement la même chose. Disons qu'il a les neurones, mais il lui manque aussi les connexions dans ces parties du cerveau, ce cortex frontal. Et donc, en fait, tous ces branchements-là, qui communiquent, elles ne communiquent pas bien entre elles. C'est ça qui explique finalement qu'il a ce comportement aussi impulsif également. En plus, il a son système limbique qui contrôle les émotions, qui est aussi en cours de maturation. Donc, ça fait beaucoup de choses qui expliquent cette impulsivité. Et donc, il n'est pas capable de contrôler ses impulsions. Par exemple, si vous lui demandez, enfin, si, il sait très bien qu'il n'a pas le droit de faire quelque chose, mais en fait, résister à la tentation, c'est quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, comme Phinéas. Il dit aussi tout ce qui lui traverse à l'esprit, exactement comme Phinéas. Il va dire, par exemple, caca boudin, toutes ces choses-là. Ça va être difficile pour lui aussi de résister aux distractions, par exemple les bonbons qui sont juste à la sortie des caisses. Et ben c'est très difficile pour lui aussi d'y résister. Évidemment, c'est pas par hasard qu'il les met ici. Alors par exemple aussi tout ce qui est toutes les choses qui justement sont très excitantes. Par exemple, ben, je reprends l'idée du supermarché. Ben, y a de la musique, y a beaucoup de monde, y a beaucoup d'objets, des couleurs, des sons, des mouvements. Et tout ça, ça fait que ça va l'exciter et il n'a pas la maturation de son cerveau pour pouvoir gérer ça. Tout ce qui est aussi imprévu, ça va vraiment être compliqué pour lui de le gérer parce que son cerveau, il n'en est pas capable. Si par exemple, vous lui dites que vous allez à la piscine et que finalement, elle est en travaux, ben c'est la fin du monde pour lui. Ou alors quelque chose qu'il voudrait faire tout seul et qu'il n'arrive pas, et ben ça peut l'amener à des proportions inimaginables. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que finalement nous aussi on a sans doute vécu, même étant adulte. Parfois on est tellement pris par une émotion de colère ou quoi qu'on dit des choses qui nous dépassent et qu'on regrette après. Mais faut imaginer qu'en fait votre enfant c'est un petit peu ça qui vit au quotidien à cause de cette histoire de connexion entre les neurones. Alors la différence. Et la bonne nouvelle, c'est que la différence avec Phinéas, c'est que votre enfant, ses connexions, elles sont pas encore là, mais l'idée, évidemment, c'est qu'elles vont se construire. Et il y travaille fort pour qu'elles se construisent, ses connexions. Et pour, du coup, qu'il ait beaucoup moins de difficultés à gérer cette impulsivité. Alors, voilà, je pense que ça peut vous donner déjà une idée un petit peu plus claire de ce qui se passe et de pourquoi il se met dans des états pareils en fait. C'est exactement comme Phinéas qui était pourtant un adulte mais qui n'était pas capable en fait d'inhiber ces comportements-là, de ne pas être aussi impulsif. Je vais quand même vous donner deux petites clés pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Parce que pour pas vous laisser là-dessus, mais je pense que déjà juste d'avoir cet éclairage-là, ça peut permettre de comprendre pas mal de choses. Alors, ça peut être du coup comme clé de mettre des mots en fait sur les difficultés qu'il va vivre. Par exemple, un enfant qui va se mettre dans des états pas possibles, parce que son frère lui a piqué son jouet. Vous pouvez lui dire, tu es fâché parce que ton frère t'a pris ton jouet. Ben, tu peux le dire. Vas-y, tu dis je suis fâché. Et en fait, simplement, le fait de mettre des mots là-dessus, et ben petit à petit, au fur et à mesure d'entendre ça, il va apprendre finalement à dire « je suis fâchée ». Voilà. La deuxième chose que je peux vous proposer, c'est d'anticiper les choses et de le canaliser pour éviter cette impulsivité, donc d'agir finalement avant qu'elle se présente. Par exemple, si vous êtes dans le fameux supermarché où il y a plein de choses très compliquées à gérer pour lui, eh ben ça va être de lui proposer d'être actif. Par exemple, vous lui donnez un sac et vous lui demandez de choisir les plus belles pommes qu'il peut prendre. Et du coup, eh ben il va être canalisé sur cette activité. Et ça va vraiment beaucoup l'aider. Voilà, c'était des petites clés. Alors, je vois qu'il y a une question. Merci Aude pour cette question. Si les parents sont colériques, est-ce que les enfants auront tendance à l'être plus ? Bonne question. Si les parents sont colériques, alors qu'est-ce que vous entendez par colérique ? Parce que je pense qu'on est tous un peu colériques quelque part. Enfin, ça veut dire quoi, colérique ? Ça veut dire faire des colères. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce que... Bon, après, c'est normal aussi de... C'est pas malsain d'exprimer une colère. Après, tout est dans la façon dont on l'exprime. Et justement, accompagner son enfant à exprimer cette colère de façon de façon socialement acceptable, finalement, c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir l'aider à l'exprimer, parce que c'est vraiment important pour lui. Enfin, l'idée, c'est pas non plus de lancer une pierre sur les parents. Je pense qu'on a tous des moments, vous dites par exemple au volant, oui, on a tous des moments où on est un petit peu énervé, et ça arrive à tout le monde, et il faut surtout pas se culpabiliser pour ça. Par exemple, effectivement, il y a des gens qui vont être pas réussir à se retenir en voiture, au volant, et bah, ça peut arriver. Vous pouvez simplement dire à votre enfant que vous avez eu très peur, et que du coup, c'est pour ça que vous avez lancé des injures ou des choses comme ça. Mais là, du coup, voilà, c'est pas de la colère, hein. Là, on est vraiment dans la peur. Le fait d'avoir des comportements agressifs comme ça au volant, c'est plus de la peur, pardon, que de la colère. Parce que finalement, si on crie, c'est parce qu'on a peur d'avoir un accident. Et du coup, ben, c'est comme ça que ça s'exprime. Donc, par rapport à ça, voilà, c'est aussi important justement d'essayer de bien faire cette différence. Est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la peur, de remettre bien les émotions qui correspondent à la façon dont on l'exprime, parce que la peur peut être exprimée finalement de la même façon que la colère. Voilà, de dire simplement à votre enfant, voilà, j'ai eu très peur, donc j'ai crié et j'ai dit des mots qu'il faut pas dire. Simplement lui dire ça, et puis que vous avez souvent peur, peut-être en voiture, si vous avez tendance à faire à crier ou à dire des choses qu'il faut pas dire. Voilà. Est-ce que je réponds à votre question, Aude? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'attends d'avoir la réponse d'Aude. Et puis, du coup, en tout cas, notre direct a duré plus longtemps. Mais dites-moi aussi en commentaire, quand vous écoutez, même en replay, parce que là, on essaye un petit peu des nouvelles choses. Peut-être que ce soit quels horaires vous conviennent le mieux pour faire les directs. Et puis, même la durée, parce que là, au départ, j'étais partie sur plutôt une durée de 5 minutes. Puis finalement, je me rends compte que c'est difficile de faire moins de 10 minutes. Et puis, là, du coup, je pense qu'aujourd'hui, on va dépasser les 15 minutes. J'ai une autre question de Benoît. Est-ce que des parents calmes auront forcément des enfants calmes? Ça, c'est une très bonne question. Ça dépend, il n'y a pas de magie. Rien n'est, avec les enfants, rien n'est évident. Et souvent, on est aussi un peu dérouté par les enfants qui nous apprennent finalement plein de choses sur nous aussi. Donc, potentiellement, peut-être que des parents plus calmes auront tendance à avoir des enfants plus calmes. Maintenant, pas forcément, parce que ça peut être aussi justement des parents qui sont calmes de façon générale, mais qui vont garder toutes leurs émotions pour eux, etc., mais que les enfants vont les pousser dans leur retranchement, et qui vont faire que finalement, il va y avoir aussi des difficultés. Et au contraire, les enfants aussi, même si les parents sont calmes, je sais pas ce que ça veut dire, ce que vous entendez par calme, mais un parent calme, ça peut être un parent, même pourquoi pas dépressif ou voilà, pas bien. Donc peut-être que les enfants au contraire vont être très turbulents pour aller contre finalement ce qu'ils ressentent en fait de leurs parents. Voilà, je pense que du coup c'est pas forcément, c'est pas si facile que ça. Je pense que de toute façon, si vous avez des enfants, vous savez bien que malheureusement c'est jamais, malheureusement ou pas d'ailleurs, c'est jamais tout noir ou tout blanc, et on peut jamais savoir comment ça va se passer. Je vais prendre une dernière question de Aude. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, Benoît. Donc on dit que quand un enfant meurt, il faut lui faire la même chose. Est-ce vrai? On dit plein de choses, et même moi je dis plein de choses. Après, c'est vraiment à vous de faire ce que vous pensez qui est le mieux pour votre enfant, avec ce que, en quoi vous croyez, etc. Moi, en tout cas, je ne dirais pas que si un enfant mort, il faut le mordre également, puisque finalement, si vous le mordez, vous lui montrez ce que vous dites qu'il ne faut pas faire. Si vous lui dites on mord pas et vous mordez, et ben du coup vous lui montrez ce qu'il faut pas faire. Donc pour l'enfant, c'est pas, en fait, il y a pas de logique C'est en gros, c'est comme si, peut-être vous êtes adulte, donc vous pouvez le faire, mais lui, il est enfant, donc il peut pas le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il sera adulte, il pourra le faire. C'est vraiment compliqué pour lui, en fait, de comprendre ça, en fait. Du coup, non, moi, en tout cas, je conseillerais pas de mordre un enfant qui a mordu, surtout si c'est pas, encore moins si c'est pas vous qui l'a mordu, mais même de façon générale, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Écoutez, du coup, je vais arrêter là parce que là, on est presque à 20 minutes et l'idée, c'est quand même de faire des choses très courtes. Donc, en tout cas, j'attends vos retours et puis je vous remercie beaucoup pour vos nombreuses questions de ce soir. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.
Écoute les conseils de tous et prends celui qui te convient.
Si vous avez apprécié cet épisode, un like ou un commentaire seront très appréciés. Et pour poser vos questions en direct lors de nos prochains épisodes audio, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram tous les lundis à 21h. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite sur donnez-lui-des-ailes.fr pour télécharger notre livret « Comment accompagner le développement de votre enfant ». Vous y trouverez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous individuel, par téléphone ou visioconférence, pour des conseils sur mesure adaptés à la situation de votre enfant.